Radio Spoutnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
La tension monte dans notre pays face au terrorisme. La France se cherche et tergiverse donc face aux menaces. Alors que faire? Comment faire? Les réponses sont loin d'être évidentes. Chacun y va de son petit grain de sel. Mais certains se font davantage remarquer que d'autres. La semaine passée a vu la publication d'un brûlot, un quinquennat pour rien, le dernier essai d'Éric Zemmour. Dans cet essai, le fameux polémiste a tenté d'apporter une réponse, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est provocante. Pour les auditeurs n'ayant pas entendu parler de l'ouvrage, dites-vous qu'Éric Zemmour évoque les théories de désignation de l'ennemi, notamment avec les philosophes Julien Freund et Carl Schmitt, et écrit explicitement, je cite, « Nous devons reforger dans l'adversité un peuple français et désigner l'ennemi l'islam, un ennemi qui nous fait la guerre sans déclaration de guerre », page 44. Alors cette citation est à l'origine du débat du jour. Cet argument est, me semble-t-il, destiné à marquer profondément le débat à la fois intellectuel et politique des prochaines semaines et des prochains mois, et je dis même des prochaines années. Alors est-ce de la surenchère médiatique ou du courage politique, de l'islamophobie ou de la lucidité, l'expression d'un repli identitaire ou un renouveau patriotique? Ces questions sont graves et Spoutnik News a décidé d'y répondre et d'approfondir la réflexion avec un universitaire chevronné à ma gauche et un intellectuel plein d'avenir à ma droite. Alors Jean-Louis Harwell, vous êtes professeur agrégé de droit, vous avez publié une vingtaine d'ouvrages et le plus récent est « Les droits de l'homme contre le peuple, publié cette année aux éditions Desclée de Brouwer. Thibault Isabelle, vous êtes quant à vous rédacteur en chef de la revue Crisis, docteur en philosophie, et vous avez publié en 2014 l'ouvrage « Le parti de la tolérance » aux éditions La Méduse. Merci à tous les deux de votre présence ici en studio pour notre émission Parade Riposte. Alors sans plus tarder, je me permets de me tourner vers Monsieur Harwell. Dans votre essai, vous vous révélez très critique à l'égard de l'islam. Jusqu'où iriez-vous, diriez-vous comme Éric Zemmour, qu'il est l'ennemi?
Eh bien, je le dirai avec d'autant moins d'hésitation qu'il est l'ennemi, que dans le livre que vous avez bien voulu évoquer tout à l'heure, « Les droits de l'homme contre le peuple », je l'écris à plusieurs reprises et de manière différente. Je parle à propos de l'islam, de l'entreprise conquérante d'une civilisation hostile. Je parle d'un antagonisme de civilisation et je parle purement et simplement d'ennemis. À un endroit, si vous le permettez, je vais relire le passage en question. Ce que je fais, c'est que je fais bien la distinction entre l'islam comme système et les musulmans comme personne, qui me paraît absolument essentiel. Et j'écrivais, certes, bien des personnes de confession ou d'origine musulmane ne se sentent nullement ennemies de la France, mais l'islam, en tant que corps de doctrine, est bel et bien notre ennemi. Il est l'ennemi à la fois du passé chrétien de la France et de son actuelle sécularisation. Et dans des articles, dans des interviews de Figaro Vox, cet été, j'ai essayé d'apporter à ce débat en employant l'expression de djihad civilisationnel, en disant qu'il y a un djihad violent, celui qui le plus terrible, celui qui nous fait peur à juste titre, mais il y a un djihad beaucoup plus dangereux, il y a même deux djihads beaucoup plus dangereux, il y a le djihad démographique, qui consiste à multiplier par la procréation la présence musulmane en France, et puis il y a le djihad civilisationnel qui a pour objectif d'imposer les mœurs, le droit, la sociologie de la civilisation arabo-musulmane en France.
Thibault Isabelle, qu'en dites-vous justement sur son point-là, sur la question de l'islam comme ennemi?
Alors, d'abord, moi je dois dire, je ne suis pas chrétien. Je commence par là parce que ça me semble absolument central. Je ne suis pas chrétien, mais je suis français. J'espère être bien intégré dans la société française. Et ce que je veux dire à travers là, c'est qu'on doit se poser la question du pacte civique. Nous sommes français, nous pouvons être bien intégrés et pour autant être différent. Comment concilier ces différences au sein d'une même communauté nationale? C'est une question essentielle pour l'avenir et qui sera d'autant plus essentielle en effet que, par la force des choses, les Français deviennent de plus en plus différents, notamment au plan religieux. Ça m'amène en fait à répondre à votre question. Avons-nous un ennemi? Oui, évidemment, nous en avons même plusieurs à vrai dire, mais parmi ces ennemis, il y en a un, c'est le terrorisme islamiste. Moi, je n'accepte pas l'idée de considérer l'islam massivement comme un ennemi. Non pas que l'islam ne pose pas des problèmes particuliers d'accommodement avec la République française. C'est certainement le cas. À vrai dire, On peut même affirmer que toutes les religions posent des problèmes particuliers d'accommodement. Non pas qu'elles en posent toutes dans les mêmes termes ou à quantité égale, mais chaque religion a ses spécificités qui font que le problème de la laïcité se pose avec elle d'une manière particulière. Il est certain que l'islam, par sa nature très politique et très juridique, pose des problèmes tout particuliers. Je veux bien le reconnaître aussi. Et ensuite, il faut reconnaître qu'il y a une grande quantité de Français d'immigration récente qui sont musulmans. Donc, cela aussi, ça contribue à envenimer le problème et à le rendre d'autant plus urgent. Mais cela dit, assimiler l'islam en général et le terrorisme islamiste me semble à la fois erroné sur un plan intellectuel, et plus encore, je pense que c'est une grave erreur géostratégique. Une grave erreur géostratégique parce qu'au fond, en rentrant dans cette logique, on rentre dans la logique de Daesh. Le seul véritable objectif de Daesh, c'est de favoriser un climat de guerre civile sur le sol national des pays occidentaux. En rentrant dans leur logique et en considérant qu'il y a deux blocs qui s'opposent d'une manière unilatérale, sans possibilité de compromis, alors en fait on fait le jeu de Daesh parce qu'on dit à tous les musulmans « vous ne pouvez pas être français, vous ne le serez jamais ». Donc par conséquent, il n'y a en effet que le djihad, il y a un choc des civilisations et on ne peut pas y échapper. Donc rentrer dans cette logique, c'est s'inscrire dans le cadre d'une rivalité mimétique et c'est s'empêcher, à mon sens, d'un point de vue pragmatique, de trouver une solution au problème qui se pose à la France.
Alors monsieur Orwell, donnez-vous justement raison à Daesh.
Alors, je saisis tout à fait l'intérêt et l'intelligence de ce qui vient d'être dit. Et je tiens bien à affirmer que je ne fais absolument pas un amalgame entre l'islam et le terrorisme islamique. Ce terrorisme islamique, il est un des visages de l'islam. Mais il y est présent. Il y est présent. Et il me semble, vous voyez, ces centaines de morts, ces souffrances, tout ça, c'est quelque chose d'atroce. Mais si vous voulez, il me semble qu'il faut distinguer le court et le très moyen terme et le long terme. À long terme, ce qui me paraît infiniment plus grave que le terrorisme, c'est cette conquête feutrée du continent européen, et pas seulement de la France, du continent européen par l'islam. Actuellement, il est établi que pour les islamistes, de manière militante, et puis pour beaucoup de musulmans, les temps sont arrivés, un grand tournant est arrivé, Dieu va enfin leur donner ce qu'il avait promis il y a 1300 ans, c'est-à-dire la terre des infidèles. Cette promesse de la terre des infidèles, elle est dans le Coran. Dieu donnera aux justes, les justes posséderont la terre. C'est dans le Coran. Et d'ailleurs, il n'est pas indifférent de noter qu'un très grand nombre de mosquées qui ont été créées en France portent des noms évocateurs de la conquête. Il y a cette conquête. Alors cette conquête, elle est non dite. Et moi, cette conquête, elle me paraît beaucoup plus redoutable que le terrorisme. Et je dirais même, en me faisant l'avocat du diable, que d'une certaine manière, le terrorisme, l'horreur même du terrorisme musulman est peut-être la seule chance historique de l'Europe pour rester l'Europe. Parce que on a le discours lénifiant des imams et des intellectuels. Je ne vous mets pas dans cette catégorie acquis à la cause musulmane que je qualifie volontiers de collabos, de nouveaux collaborateurs. Il y a un discours lénifiant, mais non, c'est une religion de paix. Et heureusement, d'une certaine manière, il y a cette horreur du terrorisme islamique qui vient nous rappeler le visage noir, la face noire, car il y a une face lumineuse, l'islam. Je ne fais pas du tout de procès de l'islam, moi-même. Quand j'étais adolescent, j'ai découvert l'Orient avec enthousiasme. C'était sublime, l'Orient, mais seulement l'Orient était en Orient. Et la France n'était pas en train de devenir l'Orient. Et moi, ce que je voudrais contribuer à essayer par mes faibles moyens d'empêcher, c'est est-ce que la France et l'Europe ne deviennent l'Orient. Et il me semble que le jour où tous les musulmans d'Europe se sentiront en Europe en terre d'islam, l'Europe sera finie.
Alors Thibault Isabelle, allons-nous vers la fin de l'Europe selon vous?
Il faut surtout se demander comment nous pouvons gérer la situation au mieux. J'ai un naturel pessimiste. Alors, il est clair que à la fois en France, en Europe et dans le monde, la situation est très tendue actuellement et qu'on peut craindre le pire pour l'avenir. Ça, je ne le remets pas en cause. En outre, nous nous trouvons actuellement dans une situation...
Là, vous sous-entendez que les causes sont multiples, enfin
oui,
que la question de l'islam est quasiment un épiphénomène.
Un épiphénomène, c'est tout de même tout à fait prégnant dans la situation géopolitique actuelle, mais il n'empêche, ça n'est qu'un phénomène parmi d'autres. Il y a aussi des problèmes liés à la mondialisation financière, par exemple. Mais peu importe, ça n'est pas le débat du jour. Il est clair aujourd'hui que notre situation en France est particulièrement tendue. Je pense que les politiques d'immigration telles qu'elles ont été menées au cours des 50 dernières années étaient de ce point de vue calamiteuses, parce qu'elles n'ont pas envisagé les répercussions possibles en termes d'intégration et en termes de pacte civique sur le sol national. Ce que je veux dire par là, c'est que même pour ceux qui défendent comme moi une politique d'intégration, et donc une politique de tolérance à l'égard de l'islam et des religions en général, il est clair que lorsque la situation devient sociologiquement trop tendue, les politiques d'intégration et de tolérance deviennent difficiles à mettre en œuvre. L'immigration est tout à fait nécessaire à la survie d'une société, mais il faut que cette immigration soit raisonnable.
Est-ce que vous pourriez, est-ce que vous pourriez préciser justement cet argument ?
Mais bien sûr, il faut que l'immigration soit progressive. Ça veut dire que quantitativement, il faut qu'elle s'effectue par palier, et qu'en outre, les populations accueillies soient accueillies d'autant plus modestement que leur différence culturelle avec le pays d'accueil est importante. Je ne dis pas ça parce que je ne souhaite pas qu'il y ait des musulmans en France. Je pense qu'il est salutaire qu'il y ait des musulmans en France, comme il est salutaire qu'il y ait des bouddhistes ou des représentants de n'importe quelle religion. Mais il est clair que les politiques migratoires telles qu'elles ont été menées ont conduit à une situation qui est aujourd'hui explosive. Et je défends ce point de vue tout en défendant par ailleurs le point de vue de l'intégration et de la tolérance à l'égard de l'islam, justement parce que je pense que ces politiques nous ont mis dans une situation qui est maintenant difficile. Mais voilà, la situation est ce qu'elle est. Comment est-ce qu'on peut gérer au mieux la situation pragmatiquement et d'une manière juste au vu de la population française telle qu'elle est aujourd'hui? Et la population française telle qu'elle est aujourd'hui comporte une part importante de musulmans. Moi, j'ai dit que je n'étais pas chrétien, et pourtant je suis très attaché à la religion et aux racines, de manière générale. Je pense que les racines, comme la religion, contribuent à structurer une personnalité. Et nous avons aujourd'hui beaucoup de problèmes de délinquance. Ces problèmes de délinquance touchent particulièrement les banlieues, dans lesquelles se trouvent beaucoup de ressortissants de pays à majorité musulmane. De mon point de vue, la religion, les racines, ne sont pas quelque chose qui contribue à la délinquance, mais au contraire quelque chose qui permet de lutter contre la déstructuration des personnalités. Je suis originaire de Lille, et à Lille, il y a un lycée, le lycée Averroès, qui est de loin le lycée de la ville qui obtient le meilleur résultat, et un des meilleurs lycées de France. C'est un lycée musulman. Eh bien, je suis persuadé que pour un enseignant, il est plus agréable d'enseigner au lycée Averroès à des jeunes issus d'immigration maghrébine qui sont structurés par leur religion, plutôt que d'enseigner dans des collèges de banlieue où vous retrouvez face à des délinquants qui ne sont absolument pas religieux, qui ne sont pas structurés par une culture quelle qu'elle soit ou par des racines. Et c'est au sein de ce type de population que Daesh recrute l'essentiel de ses futurs martyrs. Je pense que c'est important d'établir cette distinction pour comprendre que la religion sainement conçue n'est pas l'ennemi de la civilisation, n'est pas l'ennemi de la France, mais qu'au contraire, c'est la déstructuration des personnalités qui contribue à produire des comportements barbares.
Alors là, Monsieur Harwell, est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'avoir jeté le bébé avec l'eau du bain concernant l'islam justement et le phénomène religieux?
Non, mais moi, je pense qu'il faut distinguer entre d'une part les comportements barbares qui sont exécrables, et puis d'autre part cette entreprise de conquête. Moi, j'estime que face à une civilisation que je respecte, que j'admire à beaucoup d'égards, je suis un grand admirateur de l'art musulman. Je ressens comme une agression ces mosquées triomphalistes arabo-musulmanes, souvent d'ailleurs médiocres, on va bien le dire, elles n'ont rien à voir avec la beauté première des constructions médiévales ou anciennes. C'est kitsch, c'est de l'arabo-musulman kitsch, mais c'est quand même de l'arabo-musulman triomphaliste. Et bon, pour moi, la civilisation européenne, je l'écris dans plusieurs livres dont Revenir à la Nation, l'Europe n'a pu exister historiquement que parce qu'elle a refusé d'être musulmane. S'il y avait un point commun entre tous les Européens, en dehors du fait d'être blancs, il y a, mais ils seront là en commun avec les Arabes, s'il y avait un point commun à tous les Européens, c'est qu'ils ont tous refusé de devenir musulmans. C'est ce refus de la conquête musulmane qui a fondé l'Europe et qui a permis cette dissociation du politique et du religieux qui a été la clé du succès historique de l'Europe, et dissociation du politique et du religieux qui nous a permis de sortir de cette de ce confusionnisme politique religieux justement qui caractérise l'islam, auquel l'islam ne renonce pas. Et dans la mesure où nous avons des problèmes avec l'islam, c'est que nous sommes dans un nouveau système de confusion du politique et du religieux, avec ce que je dénonce dans ce livre, c'est-à-dire la religion des droits de l'homme. Et c'est dans la mesure où, en vérité, nous avons nous-mêmes trahi ce que nous sommes. Et c'est parce que nous avons trahi ce que nous sommes désemparés devant l'islam. Si le Conseil d'État n'arrive pas à se prononcer, c'est parce que notre droit n'est pas adapté au type de situation que nous avons. La problématique des rapports entre l'individu dans une société, au moment où ce droit a été fondé, les sociétés étaient ethniquement homogènes, étaient civilisationnellement homogènes. On pouvait s'étriper entre Européens, mais on était tous Européens. Et on avait des problématiques qui nous réunissaient à travers même nos affrontements. Là, il y avait un changement de peuple. Et notre droit qui ne concerne que les individus, qui ne prend en compte que les individus dans leur rapport à la puissance publique, et c'est beaucoup plus net aux États-Unis et encore qu'en France et qu'en Europe, notre droit est complètement inadapté à des phénomènes de conflits de civilisation.
Voilà. Alors, il y a deux points là-dessus. J'aimerais entendre la réponse de Thibaut Isabelle, ou en tout cas l'argument contraire éventuellement, sur le point du changement de peuple et ensuite sur la question des droits de l'homme.
Alors, sur la question du changement de peuple, oui, mais les religions et les peuples ne sont pas éternels. En disant cela, je ne me réjouis pas du fait que un peuple disparaisse ou qu'il évolue trop rapidement. Les évolutions doivent être lentes et modérées, mais les évolutions sont inévitables. Ensuite, sur la question des droits de l'homme, je suis assez d'accord avec vous, Jean-Louis Harwell. Moi aussi, je suis un adversaire de l'idéologie des droits de l'homme, au sens du fanatisme des droits de l'homme, parce que c'est une idéologie universaliste qui veut imposer un certain nombre de valeurs, de croyances considérées comme métaphysiquement valables et donc universelles à l'ensemble de la planète. Ce que je remets en cause, c'est la transposition de la logique des droits de l'homme à l'échelle nationale. Parce que si on refuse toute idéologie universaliste à l'échelle de la planète, alors on doit aussi refuser une idéologie universaliste à l'échelle d'une nation. Moi, je crois à l'idée de pluralité. Il faut qu'il y ait d'un côté un pluralisme des opinions et en même temps le sentiment d'appartenir à une communauté, communauté nationale, alors, à une communauté civique unique.
Comment fondez-vous ce pluralisme sans les droits de l'homme, justement ?
Eh bien, prenons l'exemple du christianisme. À l'origine, ne l'oublions pas, le christianisme n'est pas une religion européenne. Le christianisme, lorsqu'il a été importé en Europe, a été très mal reçu par les Romains. Les persécutions romaines contre les chrétiens étaient excessives dans leur forme, mais je pense qu'elles étaient justes d'un point de vue politique, parce que lorsqu'une religion apparaît sur un sol national et conteste le ciment de cet État d'un point de vue politique, il est juste que l'État réponde politiquement à l'agression dont il est victime. Et ce sont des problèmes qui peuvent se poser aujourd'hui avec un certain islam, je ne le conteste absolument pas. Mais je fais simplement remarquer que par le passé, le même problème a pu se poser avec le christianisme. Or, précisément, quelle était l'attitude de Rome et des cultures antiques de manière générale à l'égard de la religion ? Eh bien, c'était une optique de tolérance religieuse, c'est-à-dire que on acceptait la diversité religieuse des citoyens et même on l'intégrait dans la religion nationale. Il y avait des droits, il y avait des devoirs, c'est-à-dire que à Rome, on demandait aux populations, quelle que fût leur religion, de se sentir adhérents à l'État romain, mais dans le même temps, on les laissait libres de leur culte. Et on allait plus loin encore, on intégrait des divinités propres à chacune des religions importées à Rome au sein du culte officiel de la cité. Il y avait donc un culte officiel de la cité qui coexistait avec des cultes privés, et ce culte officiel intégrait des dieux d'origine diverse pour refléter la diversité d'origine des citoyens romains. Eh bien, je crois que c'est un modèle de tolérance dont on doit s'inspirer, parce qu'il permet de combiner à la fois la diversité de la population, qui assure la vitalité des débats, la vitalité des opinions, la responsabilité des hommes et des communautés aussi, et dans le même temps, on consolide le ciment civique, le ciment citoyen. Il y a des droits et des devoirs. Il y a à la fois la religion territoriale, la religion de la cité, et puis le culte privé, le droit du sol, en quelque sorte, et le droit du sang. Les deux coexistent, ils ne s'excluent pas. C'est quelque chose que nous avons oublié aujourd'hui, et je pense que c'est cet oubli, précisément, qui creuse un fossé de plus en plus massif entre différentes communautés sur le sol national. Et c'est ce qui fait que nous vivons à l'ère du communautarisme, pour une raison simple, parce qu'il y a d'un côté l'État et de l'autre les communautés, alors qu'en théorie, les communautés et l'État devraient coexister harmonieusement.
Monsieur le professeur, alors la copie de Thibault Isabelle obtient-elle la moyenne ?
Ah mais il est remarquable. Il est remarquable. Mais je voudrais quand même dire deux toutes petites choses, si vous le permettez.
Trois, si vous le voulez.
Merveilleux. La première chose, c'est que il n'y avait pas une telle diversité en réalité, et Haussmann l'a montré déjà pour les religions de l'Orient antique. Sous des noms différents, c'était le même Dieu. Et en définitive, quand les Romains permettaient à des tas de divinités de venir, ben Astarté c'était Vénus. C'était Vénus. Et Baal c'était Zeus, c'était Jupiter. Et c'était Amon, c'était Jupiter. Et finalement les Romains avaient proposé aux chrétiens une solution bien simple, votre Yahweh ça sera Jupiter et votre Jésus ça sera Apollon par exemple. Donc on restait dans le même pattern, comme disaient les anglo-saxons, on restait dans le même modèle. Alors la deuxième chose que je voulais dire, j'ai oublié d'y répondre tout à l'heure mais ça me paraît important, c'est l'affaire de l'assimilation. Moi je suis tout à fait pour l'assimilation, j'irai même plus loin, je suis pas pour l'intégration, je suis même pour l'assimilation. Et il ne s'agit pas de faire la guerre matériellement et concrètement à l'islam. Parce que l'Europe actuellement a une conception de la religion qui n'a rien à voir avec la conception, on en est bien d'accord, avec la conception de l'islam. La conception européenne de la religion, elle est transcendante et elle est limitée à la sphère privée. Bon, on est arrivé à ce résultat, on peut le discuter, on peut le regretter à certains égards, mais c'est le consensus européen. Depuis plusieurs siècles, la religion est à peu près limitée à la sphère privée. Et l'objectif, ça serait d'obtenir que les musulmans, tout en restant musulmans, en étant fiers de leurs racines, en retrouvant leurs racines, en se civilisant par leurs racines, que les musulmans consentent à ce que l'islam devienne progressivement une religion à l'européenne, c'est-à-dire limitée à la sphère privée, et ce qui cesse de vouloir régir le droit, la famille, etc. Prenons les catholiques, prenons les juifs. Ils ne considèrent qu'un seul mariage valable, leur mariage religieux. Mais il se trouve que, à tort ou à raison, l'État, pendant la Révolution et ensuite, l'État a décidé qu'il y aurait un mariage d'État, un mariage civil, et que ce mariage civil serait préalable à tout mariage religieux. Et d'ailleurs, c'était terrible, hein, parce que sous Louis-Philippe, on envoyait des curés aux galères. Quand un curé célébrait un mariage sans qu'on soit passé ma femme a étudié ça dans un livre, la mairie avant la mosquée. Quand un curé célébrait un mariage qui n'avait pas été préalablement célébré à la mairie, il encourait des peines gravissimes. Et finalement, les catholiques, ça a été pénible, mais on a exercé sur eux des pressions et des menaces et des contraintes et des coercitions épouvantables, et on les a obligés à rentrer dans ce moule. Actuellement, quand des catholiques se marient, ils vont d'abord à la mairie, ensuite ils font leur mariage religieux. Il se trouve que les musulmans ne le font pas, et que l'État ne fait rien pour les obliger à célébrer l'antériorité du mariage civil sur un mariage religieux. Le résultat, c'est que, et ma femme l'avait constaté dans son livre, sur les sites internet, on trouve des quantités d'épouses musulmanes éplorées, répudiées, et qui auraient été protégées si l'État avait imposé. C'est pas du laïcisme, ça, c'est simplement la loi du pays. D'ailleurs, les musulmans de bonne volonté le disent. Bon, voilà, on préférerait respecter la loi de l'islam, mais si on nous oblige, on respectera la loi du pays parce qu'on est loyaliste. Eh bien, il faut les prendre au mot en disant, vous êtes loyaliste, vous respectez la loi du pays, point à la ligne. Après, vous avez votre culte, c'est une affaire privée, mais vous arrêtez de faire du prosélytisme, vous arrêtez d'avoir un affichage identitaire ostentatoire, vous arrêtez d'essayer de substituer la civilisation arabo-musulmane à la civilisation européenne.
Isabelle,
je suis d'accord avec une partie de ce que vous venez de dire, Jean-Louis Harwell, dans le sens où, en effet, je ne généraliserai pas la chose à l'ensemble des musulmans, mais il y a une partie des musulmans, y compris en France, bien sûr, nous sommes d'accord là-dessus, qui défend une vision tout à fait identitaire de l'islam. Ça pose un problème, parce que le communautarisme n'est pas une bonne chose pour le ciment national. Il faut qu'on défende sa communauté, mais cette communauté doit s'intégrer dans le cadre d'un pacte civique. Et en outre, il y a un autre problème que vous soulevez qui est juste, c'est que l'islam se pose comme non seulement comme une religion, mais aussi comme un corps de doctrine politique et surtout juridique, et que ça pose un problème de compatibilité avec les lois françaises, de même que d'ailleurs le christianisme, j'y reviens, à l'époque romaine, posait des problèmes de compatibilité avec la loi romaine. Mais donc ça, c'est tout à fait exact. De ce point de vue, je veux simplement faire remarquer qu'on ne peut pas répondre à un universalisme par un autre universalisme. Le danger du laïcisme, c'est que lui aussi se pose en universalisme, c'est-à-dire qu'il veut imposer un corps de doctrine, qu'il soit laïque ou pas, peu importe, à l'ensemble d'une population. Je suis contre l'universalisme laïciste, de même que je suis tout à fait contre l'idée qu'on érige une religion, par exemple le christianisme, en religion officielle ou quasi-officielle d'une nation. Ça me semble tout à fait injuste, parce que là encore, c'est une forme d'universalisme imposé à l'intérieur de l'échelle nationale aux ressortissants de cette nation. Donc je pense qu'on ne peut pas répondre à un universalisme par un autre, parce qu'alors on entre dans un choc frontal qui ne peut pas trouver d'issue. Or, précisément, une politique d'intégration permet de remettre en cause tous les universalismes, parce qu'elle oblige les différentes communautés à la fois à conserver leurs racines communautaires, mais en même temps à faire partie d'un même pacte national, d'un même pacte citoyen.
Alors ce pacte national, ce sera le mot de la fin, malheureusement le temps tourne. Monsieur Harwell, le pacte national est-il concevable à un court moyen terme, et à quel prix?
Je sais pas, écoutez, moi à mon sens ça va beaucoup plus loin que l'idée même de pacte national, c'est l'idée de survie. Les civilisations sont mortelles, vous l'avez dit, elles changent. Est-ce que nous survivrons? Alors, je sais pas s'il faut pour cela... De toute façon, oui, pacte national. On nous parle de la communauté nationale, mais est-ce qu'il y a encore une communauté nationale? Est-ce qu'on peut encore avoir un pacte national? Est-ce qu'on n'est pas dans l'obligation d'avoir, le plus humainement possible, d'entrer le plus humainement possible dans un rapport de force symbolique, si vous voulez, mais dans un rapport de force. Je sais pas si on peut construire un pacte national avec des entités aussi distinctes. Je crois que si on veut faire un pacte national, oui, excusez-moi, je réfléchis, parce que j'étais pas du tout prêt à cette question. Si on veut faire un pacte national, il faut arrêter de parler de République. Il faut parler de la France. On nous dit les territoires perdus de la République, ils sont pas perdus pour la République, ils sont perdus pour la France, point à la ligne. Il faut parler de la France. Et c'est sur la base de l'histoire de France et sur la base de ses valeurs. Renan nous disait qu'une nation, c'était une âme. Et pour qu'il y ait un pacte national, il faut qu'il y ait une âme. On ne peut pas avoir un pacte national avec 36 âmes. Actuellement, si vous voulez, on peut discuter avec les musulmans qui appartiennent à Fils de France. Parce qu'ils mettent la France en avant. Voilà. C'est ça ma réponse. Avec des gens de Fils de France, on a un avenir en France.
Jean-Louis Harwell, merci beaucoup. Thibault Isabelle, merci à vous aussi. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes respectivement l'auteur de l'essai Les droits de l'homme contre le peuple et le parti de la tolérance. Merci à tous les deux.
Radio Sputnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.